vie al dente.
Très bonne conclusion. Merci beaucoup, Jean-Simon. On se reparle la semaine prochaine pour une autre grande question.
L'autre jour, j'étais dans la piscine, puis j'ai montré le flotteur à côté de moi à ma blonde, puis j'ai dit « Peux-tu me passer la saucisse, s'il te plaît? » Puis là, ma blonde, elle m'a regardé comme si j'avais dit de quoi d'épouvantable. Elle m'a dit « De quoi tu parles? » Je lui ai dit « La saucisse, là, le flotteur. » Puis là, elle me dit « Ben, c'est une nouille, ça? C'est pas une saucisse? » Puis là, elle se met à rire de moi, là, comme c'était pas possible. Puis il y avait des amis, en plus. J'ai-tu le droit, moi, d'appeler ça une saucisse, si ça me tente? Je suis allé me faire écœurer.
La grand-messe du rock, avec Yvon Deville. La grand-messe du rock. Vista Radio, OFM 93, c'est la grande messe du rock.
On ne vit pleinement que lorsqu'on a l'esprit tranquille. Chez Volvo, c'est notre ligne de conduite depuis nos débuts. Nos véhicules ont toujours été pensés avec le confort et la sécurité de vos passagers en tête. En ces temps particuliers, rien n'est plus important que la certitude que tout ira bien. C'est l'événement Un été en toute sécurité. Chez Volvo de Québec, obtenez 3 paiements gratuits en location sur plusieurs modèles, dont le XC60 et le XC90. Des conditions s'appliquent. Détails chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, je m'appelle Renald Carbonneau, représentant des ventes chez Idéal Revêtement pour Québec et la région. J'ai un message important pour vous. C'est certain que la COVID-19 a plus que fait embarder nos vies dernièrement. Pour vous aider et relancer l'économie, profitez du prix empoyé sur nos toitures d'acier résidentiel. Oui, vous pouvez maintenant économiser 10% sur le prix du manufacturier. Pour plus de détails, voyez notre site web.
Idéal Revêtement. Avec l'acier, vous n'aurez plus jamais à refaire le toit. idéalrevêtement.ca.
Salut, c'est Jonathan Bernard, reporter au FM 93 et amateur de vélo. Cette année, je vous invite au cyclo-défi IUCPQ présenté par Cominard et SSQ Assurance en version transformée. Cette fois-ci, nous roulerons ou marcherons tous en même temps sur le parcours de notre choix. Faites comme les 600 cyclistes qui ont relevé le défi l'an dernier afin de soutenir la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous aussi, inscrivez-vous à l'édition 2020 au cyclo-défi IUCPQ.com. Une invitation du FM 93.
Bonne nouvelle! Tous les Doulis sont maintenant ouverts avec tous les services. Et encore plus alléchant, on a une promotion Body Burger à 15$. Que demander de plus? On est grand avec beaucoup d'espace pour vous recevoir chez Doulis.
Sport Expert et Atmosphère vous offrent de bonnes raisons de profiter du soleil. Obtenez 20% de rabais sur les vêtements mode décontractés et 30 à 50% de rabais sur les vêtements athlétiques des collections antérieures. Détails en magasin et sur sportexpert.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
FM 93. Au cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec. Depuis 40 ans. FM 93. Québec. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Voici Élisabeth Grette.
Au FM 93.
À la circulation, certains points chauds à cette heure-ci déjà. D'abord, l'approche pour le pont Pierre-Laporte, c'est à partir de 4 Bourgeois, donc en direction sud. 40 en direction ouest, c'est à partir de Legendre sur une courte distance. Sinon, bien évidemment, dans le secteur des travaux en direction nord sur Henri IV, c'est également lourd. Et sur Capitale en direction est,
tout juste passé le boulevard de Lormière. Vous aurez un ralentissement avant de passer l'échangeur de Robert Bourassa. Si vous êtes témoin d'accidents, d'incidents ou de ralentissements sur le réseau routier de la grande région de Québec composé d'étoiles 93.3.
À la météo, c'est une chaude et collante aujourd'hui. 32 le maximum, mais on l'a dépassé parce qu'il fait 33 présentement. Et l'humidex est à 42 actuellement. Il y a des tout petits vents du nord-est, 9 km/h, là, mais ils sont trop petits pour vraiment rafraîchir l'atmosphère. Il y a des possibilités d'averses et d'orages pour l'après-midi et la soirée. 30% c'est assez faible, mais il y a des nuages là, présentement au-dessus de Saint-Augustin ou à peu près. Alors, il y a un peu de pluie dans ce coin-là, mais c'est pas une très, très grosse cellule. Là. Alors, la pluie doit être quand même assez faible, mais il y en a à l'horizon. Pour la fin de semaine, c'est les restants de la tempête tropicale Fée qui s'en viennent sur nous. Demain, c'est des averses. On va en savoir un petit peu plus long, là, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, sur ce qui nous attend vraiment, parce que dans certains secteurs, on parle de 20 à 50 mm de pluie, et la trajectoire des restants de la tempête tropicale va passer là, vers la fin de l'après-midi, demain, entre Québec et Trois-Rivières. Donc, on va avoir de la pluie, c'est certain, mais quelle quantité, on ne sait pas encore. Puis pour dimanche, on nous prévoit des averses, et un peu moins chaud, là, 23 demain, 25 dimanche, mais il y a quand même encore pas mal d'humidex qui sont prévus. 33 présentement à Québec.
Il est arrivé une nouvelle un peu surprenante dans les dernières heures, dans les derniers jours, concernant la possible décriminalisation de certaines drogues illicites. On parle ici de possession simple. Je dis que c'est surprenant parce que la recommandation vient des chefs de police du Canada. Pourquoi c'est surprenant? Parce que, ben, Joe, tu l'as vu, en fait, tu as été à même de constater aussi qu'au fil des dernières années, ça a été recommandé et demandé par certains groupes de défense pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, puis c'était tout le temps refusé par les policiers. Ouais. Ils n'étaient pas d'accord.
Mais je vais t'avouer que je suis pas tant surpris de cette volte-face-là, dû au fait de tous les efforts qui sont mis par les policiers pour emmener des dossiers devant le tribunal. Parce que même si c'est pas tellement compliqué faire la preuve d'une possession simple, ils doivent tout de même faire ce travail-là. Et le travail qu'ils mettent à constituer ces enquêtes-là, ces dossiers-là, ils ne l'ont pas pour travailler sur d'autres dossiers qui pourraient être des dossiers de revente et de vente de stupéfiants.
Alors, ça, c'est vrai, par contre, il y a énormément d'efforts et de travail qui doit être fait de la part des policiers pour ces dossiers-là. Est-ce que c'est pour s'éviter du travail supplémentaire qu'ils ont fait cette demande-là ou qu'ils pensent que maintenant, on devrait se concentrer sur d'autres types de crimes? Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une maudite bonne nouvelle pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, parce que souvent, ce n'est pas de judiciariser ces personnes-là qui va les aider nécessairement. On va aller en jaser avec mon prochain invité. Il s'appelle Simon Vermette. Il est intervenant en toxicomanie pour la clinique SAPSA. Mais c'est aussi un toxicomane lui-même qui a passé au travers de ce système-là. Il va pouvoir peut-être nous parler des conséquences que ça peut avoir pour une personne toxicomane d'être judiciarisée comme ça. Monsieur Vermette, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Vermette, on va commencer tout d'abord avec votre expérience personnelle pour que les gens comprennent bien d'où vous venez puis comment vous vous êtes rendu à la clinique SAPSA pour aider les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. C'est que vous êtes passé à travers cette épreuve-là aussi.
Oui, exactement. Essayer de faire une histoire courte, en fait, là, c'est ça. C'est que moi, bon, je suis quand même de faire un petit portrait rapide. Je suis issu d'une famille moyenne, là, de la classe moyenne. Donc, j'ai quand même été aussi encouragé dans plusieurs choses. Mais bon, par la banque, j'étais tout le temps quelqu'un de curieux. J'ai jamais fait toutes sortes d'expériences, ça, dont l'expérience des drogues. Puis, par la bande, là, bon, mes frères aussi ont fait les expériences, eux autres aussi, mais moi, j'ai fait partie de ceux qui sont restés dépendants. Fait que moi, j'ai quelques années d'actifs de dépendance, je dirais à partir de l'âge de 14-15 ans, aller jusqu'à l'âge de 33 ans. Puis, il y a eu une gradation. Je me suis rendu jusqu'à l'injection des opioïdes, entre autres, et puis la cocaïne. Puis, donc, en janvier 2012, suite à tout un long processus, là, j'avais déjà commencé à arrêter certaines substances étape par étape. Là. Mais là, à la fin, en 2012, c'est là où j'ai arrêté là, pas mal tout, là, finalement. Là, j'ai commencé à cheminer, puis là, à m'en aller tranquillement vers les services d'entraide.
Et M. Vermette, bon, vous êtes passé à travers tous ces problèmes-là. Vu que c'était en fait en tant que consommateur, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les conséquences judiciaires qu'une personne toxicomane peut avoir si elle se fait prendre avec une possession simple, par exemple? Donc, uniquement pour sa consommation personnelle. Ce n'est pas du tout destiné à la revente, là. C'est une petite quantité personnelle. Avant, présentement, avec la loi qui est de mise et qui est en place en ce moment, qu'est-ce que c'est le processus exactement?
Ben, en fait, c'est tous les désavantages qui viennent avec le fait d'avoir un casier judiciaire, dans le fond, parce que souvent, bon, même si théoriquement, plusieurs employeurs, par exemple, tu sais, qui vont faire abstraction du casier judiciaire des personnes, si ça n'a pas d'incidence dans leur domaine d'expertise. Ben, par exemple, c'est ça que si on était reconnu coupable de fraude ou de vol, ben, c'est sûr que travailler dans une banque, c'est un petit peu impensable. C'est sûr que si on est reconnu coupable d'abus sexuels, aller travailler dans une école, c'est impensable. Mais c'est pas tout le temps nécessairement là, respecté. Puis le simple fait là, d'avoir un casier judiciaire, ben, c'est stigmatisant. Puis ça a un impact là, définitif sur l'estime puis la vision que la personne elle a d'elle-même aussi. Là. Fait que donc c'est autre le fait d'être judiciarisé, là, d'être stigmatisé là, par les conséquences légales d'avoir un casier judiciaire et tout de l'autre côté aussi. Stigmatisation puis la vision de soi-même.
Puis il y a des gens qui peut-être ont de la difficulté à comprendre à quel point ça peut être grave, une dépendance comme ça aux drogues, vont regarder ce portrait-là puis ils vont dire, il me semble que le fait d'être judiciarisé, ça devrait être une motivation assez grande pour lâcher ça, la drogue. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
En fait, c'est de méconnaître ce que c'est que la dépendance. La dépendance, c'est pas, on est loin de la notion de choix. Là, on n'est plus, c'est pas la punition a très très peu d'impact. Puis de toute façon, souvent la judiciarisation va avoir un impact inverse. Même la personne va dire, bon, maintenant que je suis judiciarisé, maintenant que je suis stigmatisé, puis ça a été mon cas d'ailleurs. Moi, je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais moi, mon premier casier judiciaire là, c'était pour quelque chose que je n'avais pas du tout fait. Je n'étais nullement coupable. J'étais mal accompagné par l'aide. Je veux pas rentrer dans les critiques. Mais okay. Tout ça pour dire qu'on m'a suggéré de plaider coupable alors que je n'étais pas du tout coupable.
Okay.
Ce qui a fallu pour impact. Moi, j'ai dit, maintenant, tant qu'à avoir un casier judiciaire pour quelque chose que je trouve invalide, je vais en avoir un pour quelque chose que j'ai fait puis que j'assume.
Ben
exactement.
Oui. Okay.
C'est complètement contre-productif. Ça envoie le signal inverse. Et puis, souvent, les gens pensent que le fait que ce soit illégal est incitatif. Maintenant, là, j'ai pas les données avec moi, mais on sait, les gens qui sont familiarisés là, en criminologie, ils savent que c'est beaucoup plus le risque d'être pris qui est dissuasif que la sévérité de la sentence, par exemple.
C'est ça.
Je vais vous donner l'exemple. Si vous risquez 100 ans de prison pour un acte, mais que vous êtes sûr de jamais vous faire prendre, vous allez poser l'acte quand même. Même si vous risquez 6 mois de prison, mais que vous êtes sûr à une chance sur 2 d'être pris, bien là, vous allez être moins tenté de commettre l'acte. C'est un peu ça qui est avancé dans la recherche actuellement.
Il y a d'autres endroits dans le monde qui ont opté pour une approche comme celle-là, puis ça a démontré quand même un certain succès, là, même un assez bon succès. Pour vous, est-ce que vous pensez que la solution vient avec la décriminalisation ou plutôt la légalisation de ces drogues-là?
C'est une bonne question. Moi, c'est sûr que j'accueille favorablement la position des chefs de police du Canada là-dedans. Je suis vraiment content. C'est certainement pas dans la bonne direction, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sûr que moi, pour ma vision personnelle, c'est un pas d'une foulée complète. Là. C'est la moitié du chemin qui est franchi. Mais moi, je suis quand même très, très content là, quand même là, de d'où ce qu'on s'en va là, avec ça. Là.
Et en fait, pour que les gens comprennent bien, la décriminalisation en tant que telle, concrètement, la différence entre ça et la légalisation sur le terrain, ça peut être quoi?
Bien, en fait, la décriminalisation, c'est comme on dit, là, c'est plus, comme vous l'avez très bien expliqué dans l'introduction, c'est que ça touche surtout les consommateurs, ça touche surtout le fait de posséder une petite quantité là, dans le but de consommer. Donc, c'est sûr que ça a une incidence très, très positive. Moi, ce que je regarde là, pour ce qui est du consommateur, bien, c'est sûr que la décriminalisation, même si on n'est pas encore dans la légalisation, ça a une conséquence positive sur la vie des consommateurs, leur famille, puis évidemment pour les communautés là, dans lesquelles ces gens-là évoluent. Mais c'est aussi, bon, comme je l'ai dit, aussi moins de stigmatisation, moins de judiciarisation, mais c'est aussi moins de pression, moins de stress, moins de paranoïa.
Oui, c'est ça.
Je regarde, par exemple, qu'il y a moins de risques de surdose, qu'il y a moins de risques d'infection. Si je regarde, par exemple, qu'il y a un utilisateur de drogue par injection, qui est plus calme parce qu'il n'y a pas de risque de se faire arrêter, d'être judiciarisé. pendant qu'il se prépare à s'injecter, ben, ça lui amène à utiliser un dosage plus approprié. Si je fais un portrait, par exemple, des étapes d'une injection sécuritaire, là, qui est respectée.
Ouais.
Bon, d'abord, quand on fait une injection sécuritaire, si on parle d'identifier son site d'injection, de désinfecter son site d'injection. Ensuite de ça, une fois l'injection faite, c'est de prendre soin du site post-injection. Puis ensuite de ça, vient la disposition du matériel de manière sécuritaire pour ne pas laisser traîner. Quelqu'un qui n'est pas décriminalisé pour ça, ben, il va être beaucoup plus calme, il va respecter les étapes, puis donc il va identifier mieux son site d'injection, il va se désinfecter, il va ramasser son site après s'être injecté, ça va être bien pour la communauté. Ensuite de ça, bon, si on regarde les impacts économiques que ça peut avoir, bon, là, vous l'avez souligné, c'est moins de frais judiciaires, moins de frais d'incarcération, moins de frais de santé, vous l'avez dit, hein, c'est ça, là, la sécurité publique va avoir de meilleures ressources là, pour aller vers les programmes plus graves, par exemple, la violence. Mais il y a aussi un impact aussi potentiel sur la violence dans le milieu et l'agressivité dans le milieu avec la décriminalisation. Moi, je pense que c'est un excellent pas qui est franchi là, en allant avec la décriminalisation. Puis, avec la légalisation, je pense que c'est plus total, mais bon, c'est pas le point aujourd'hui.
Non, c'est ça. Monsieur Vermette, je vais me mettre un petit peu dans la peau d'une toxicomane qui tente de s'en sortir, qui réussit éventuellement à s'en sortir et qui s'en sort malheureusement avec un casier judiciaire parce que j'ai été judiciarisée dans ma maladie puis dans ma toxicomanie. Est-ce que vous pensez que j'ai plus de misère à m'en sortir parce que j'ai un casier judiciaire ou de passer à autre chose ou de développer une vie que quelqu'un qui aurait été toxicomane et qui n'a pas de casier judiciaire?
Ben oui, définitivement, parce que comme je l'ai dit, puis ça va aussi avec toute l'information. C'est pas tout le monde qui sait, par exemple, qu'un casier judiciaire, par exemple, pour possession, ben il y a des employeurs qui vont s'en foutre. Bien ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis de toute façon, on sait pas non plus quel employeur est susceptible d'être ouvert d'esprit et l'autre moins. Donc là, c'est tout l'espoir qu'on peut avoir. Moi, j'étais un agronome avant de planter solidement. J'avais une belle carrière devant moi puis tout ça. Puis ça a été pour moi là l'accusation, ça a été un gros frein à mon estime personnelle, puis à la perception que j'avais de moi puis dans l'espoir de reprendre ma carrière d'agronome. Moi, j'ai été chanceux. Bon, j'étais un militant, je m'impliquais beaucoup même à l'époque où je consommais, fait que j'étais connu dans mon milieu, j'avais de la reconnaissance. J'ai aussi des parents qui ont fini. Moi, mes parents sont partis à l'époque là, de mon enfance où ils étaient prohibitionnistes à l'os, puis anti-drogue, puis aujourd'hui, ils adhèrent à mes points de vue totalement.
Oui.
Là.
Ah oui?
Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai été chanceux. J'ai des parents qui ont été chercher de l'information, qui se sont renseignés, qui ont passé outre leurs préjugés aussi, là. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Fait que si minimalement, au moins, la société, la communauté contribue à accueillir ces gens-là, à moins justement les stigmatiser par le biais de la judiciarisation, ben là, déjà, quand la personne désire se réinsérer, ben, elle est moins réactionnaire, elle est moins frustrée contre le système, puis elle a plus d'estime d'elle-même aussi. Moi, je pense qu'on ne peut être que gagnant là, avec ça.
Dites-moi, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'on devrait quand même garder un régime de sanctions, par exemple des amendes ou autre type de sanctions pour les gens qui sont trouvés en possession simple de stupéfiants, ou on devrait complètement abolir ça? Parce que il y en a qui vont se dire, bon, OK, ils n'auront pas de casier criminel, mais au moins ils auront quelque chose pour leur dire que ce n'est pas toléré en société.
Non. Ben, en fait, c'est ça, là. C'est ça, je comprends que là, en société, il y a des choses qui sont moins tolérées. Moi, je pense que c'est moins la consommation qui est à réprimander que certains comportements. Puis ça va pour la consommation d'alcool aussi, hein. Tu sais, je pense que je pense que la personne a le droit de consommer peu importe la substance, mais qu'elle commence à engueuler le monde sur la rue, que ce soit sous l'effet de l'alcool, des amphétamines. Qu'elle soit agressée, qu'elle soit pas du monde, même qu'elle consomme pas. De toute façon, on veut pas que les gens, on veut que les gens se comportent en citoyens respectables. Puis je pense pas que ce soit le fait de consommer ou pas une substance. C'est les comportements, je pense, qu'il faut cibler, qu'il faut réprimer. Puis c'est les comportements, c'est pas la consommation, mais les comportements violents, agressifs, dénigrants, c'est ça. C'est, on est plus là, moi, je pense que c'est plus là-dedans. Je pense qu'il faut continuer, justement, à réprimer, puis à mettre plus d'accent, justement, sur la violence, quelle qu'elle soit, peu importe qu'est-ce qui la motive, si c'est, qui est présent sous le nom de substance.
Là. Et dites-moi donc, M. Vermette, là, vous avez l'appui des chefs de police, mais je sais que, bon, des organisations comme la vôtre, ça fait très, très longtemps qu'ils demandent la décriminalisation de ce type de drogue-là. Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui peut avancer plus facilement maintenant, qui est porté par des chefs de police partout au Canada?
Bien, moi, je pense que oui. Je pense que c'est des partenaires très crédibles. Là. Je pense que c'est des gens qui, justement, c'est des gens qui travaillent fort. Hein. La police, là, c'est des gens, puis heureusement, là, puis là, je parle de possession simple, heureusement, là, déjà d'avance, là, ils ont quand même un certain, je sais pas, c'est j'ai pas le qualificatif, mais ils ont du jugement là, dans les policiers, puis ils sont tolérants. Là. Moi, je peux, j'ai certainement là, des exemples de personnes qui, même s'ils ont été pris en possession de petites quantités, ben, par exemple, quand la police connaît un individu, puis il sait qu'un individu a réputation d'être un petit tannant, si on peut dire. Là, on voit que la personne est juste en train de... Ben là, ça, mettons, on se remet dans le temps où le cannabis était illégal. Là, il voit qu'il est en train juste de fumer son joint. Il laissait tranquille. Ou si on voit que la personne est en train de faire peu importe... Il y en a des cas de police qui sont déjà plus tolérants, puis tu sais qu'ils vont avec un peu justement... du jugement, qui vont plus vers, qui sont plus orientés vers le comportement de la personne qui est plus que la présence ou non. Ça existe déjà. Puis justement, je pense que le dossier va aller beaucoup plus facilement de l'avant là, avec l'appui des policiers, surtout des autorités.
Oui, c'est ça. Bon, on va suivre ça de près, M. Vermette. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée. Simon Vermette est intervenant en toxicomanie pour la clinique SABSA. C'est lui-même un ex-toxicomane. Faut dire que, faut l'admettre, ça a vraiment démontré un beau taux de succès ailleurs dans le monde, ceux qui ont décidé d'adopter pour cette approche-là, cette démarche-là. Je pense que ça a donné le temps aussi aux enquêteurs de se concentrer sur des dossiers qui étaient un petit peu plus importants aussi.
Effectivement,
là.
Le Portugal est un des endroits où ça s'est produit et ils ont vraiment eu des bienfaits, des bénéfices plutôt à la décriminalisation. Puis, ne serait-ce l'argument économique, moi, je les vois passer là, au palais de justice, là, les dossiers, là. Puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça monopolise du temps, là. Ça monopolise du temps de la cour. Donc, juge, avocat, greffier, tout ça.
Vraiment, hein?
Pour des petites histoires, des fois, d'un comprimé, deux comprimés. Tu sais,
c'est des gens qui ont des problèmes aussi, c'est ça l'affaire. Moi, je pense que l'intention de commettre un crime, en tout cas, moi, je fais une différence vraiment entre quelqu'un qui a de grandes quantités pour la revendre et quelqu'un qui a une petite quantité, un comprimé, parce qu'il est accro, il est toxicomane, puis il a de la misère à s'en sortir. T'sais, à un moment donné, il faut faire attention aussi avec la réelle intention derrière tout ça. Puis je pense que ces gens-là ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'être judiciarisés et d'être mis en prison. Là,
non, mais c'est ça. Par contre, il pourrait y avoir un régime de sanctions, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui pourrait être justement, ben, vous irez suivre un cours, un peu comme les gens qui se font prendre en état d'ébriété au volant. Ils sont obligés de suivre un cours sur la consommation d'alcool, puis la sobriété et tout ça. Donc, je me demande pourquoi on ne fait pas la même chose et ça permettrait peut-être de diriger ces gens-là du bon côté ou du moins avec des ressources et qu'ils puissent arrêter leur addiction si addiction il y a.
25226, si vous voulez ajouter quelque chose. Juste avant d'aller à la pause, il y a un sujet, en fait, j'aurais aimé ça en parler en ouverture d'émission. Par contre, on n'a pas eu le temps et ça concerne la ville de Québec.
Oui!
Alors, c'est Jonathan qui a porté ça à mon attention. La ville de Québec a mis sur pied une brigade.
Mm-hmm.
Brigade, on se dit, Colin, ils ont monopolisé des fonctionnaires municipaux pour porter une attention particulière sur un problème en particulier, sur un enjeu en particulier. Ben c'est bien, dans le sens qu'on espère faire bouger les choses, on espère que le problème, je sais pas c'est quoi le problème, on veut qu'il soit réglé assez rapidement. Ben c'est une bonne veste, c'est une belle démarche. Oui, c'est une belle démarche, mais ça dépend c'est quoi le problème. Ça dépend c'est quoi le mandat donné à ces fonctionnaires-là.
En fait, moi, je veux dire, je t'écœurerais de payer. Je reste pas à Québec. Fait que je paye pas, mais c'est le principe en tant que tel. Je t'écœurerais de payer pour les gens qui manquent de savoir-vivre, tout simplement.
C'est une brigade anti-savoir-vivre ou pour le savoir-vivre?
Non, c'est une brigade canine.
Ah! Brigade depuis tout?
Les chiens savent pas vivre. Non, ben. Les propriétaires de chiens.
Une brigade canine.
Ça serait ça pour autre chose. Quand la ville est obligée d'installer une brigade pour rappeler c'est quoi les consignes aux gens, à un moment donné, c'est juste du savoir-vivre. Regardez, là, il va y avoir des employés municipaux. On dit pas combien exactement dans le communiqué qui a été envoyé par la ville, mais qui vont sillonner dès aujourd'hui les aires d'exercice canin, les parcs, les sentiers, les artères commerciales. Et ça va se faire tout au long de l'été. Et là, on va sensibiliser les propriétaires d'animaux de compagnie au respect de la réglementation municipale.
Fait qu'ils vont payer des fonctionnaires pour aller se promener dans la rue puis dire à tel propriétaire, ta laisse est trop longue, oups, t'as pas mis ton chien en laisse, oups, telle
affaire. Là, ils disent, mais c'est parce qu'on a modifié le règlement sur les animaux domestiques. Ouais, OK, peut-être, ça a été publicisé et tout le kit. Je sais pas qu'est-ce qui coûte plus cher, avoir des fonctionnaires qui sont sur le terrain puis qui font de la sensibilisation ou une campagne de publicité, là. Mais je pense qu'à un moment donné, là, il y avait juste du gros bon sens dans le règlement qui a été mis en place. Comme par exemple, le tenir en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètres en public.
C'est 6 pieds à peu près.
On peut s'entendre pour 2 mètres.
Ouais, c'est la distanciation.
Oui, voilà. Mais ils vont sortir leur tape à mesurer puis ils vont mesurer les laisses?
Je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien ça les voir. Ensuite de ça, ça, c'est du gros, gros, gros bon sens. Faire respecter la quiétude des voisins, notamment en évitant les jappements prolongés et en empêchant leur animal de se promener sur le terrain d'autrui. Excuse-moi, là, mais s'ils doivent faire ça, sensibiliser les gens pour ça, c'est qu'il y a un problème à quelque part.
Oui, le problème, c'est pas la ville, c'est les propriétaires de chiens.
Ben oui, je le sais, mais c'est pour ça que je te dis, je t'écœurerais de payer pour que l'on soit obligé de pour faire respecter le gros bon sens, alors que c'est juste du gros bon sens.
Parce que là, c'est collectivement, on paye pour ça, on paye des fonctionnaires pour faire respecter ces règlements-là.
Attends, je te dirais, là, le gros bon sens de base, ramasser les excréments de leur animal et les jeter à la poubelle.
Ben voyons!
Ils vont faire ça. Ils vont regarder où sont les cacas. Puis là, ils vont dire, non, c'est pas là que ça s'en va dans la poubelle.
Mais également
là.
Saint-Augustin, parce que ça, il y a un problème de propriétaire de chiens à Saint-Augustin. Il y a tout le temps des cacas partout sur mon chemin quand je prends une marche. Fait que tu dis, mais sérieusement, mais ton point, Jonathan, il est bon dans le sens que si tout le monde avait un minimum de savoir-vivre, on n'aurait pas besoin de payer des fonctionnaires municipaux pour ça. C'est ça le fait. C'est ça le point, en fait. Pourquoi vous possédez un chien, vous allez le marcher, puis vous ramassez pas son caca? C'est-tu un désir de vouloir faire suer les voisins, de vouloir... Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? C'est trop difficile? C'est trop d'efforts d'amener un petit sac avec vous? C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi l'affaire? Il me semble que c'est simple et c'est un minimum.
Est-ce que c'est la première année de cette brigade-là? Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça.
Moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est la première année, là, puis parce qu'il y a un nouveau règlement sur les animaux domestiques. Mais tu sais, ce que je t'ai nommé, excuse-moi, là, mais ramasser les excréments,
c'est vieux comme le monde,
la poubelle, là, ben oui, ben c'est ça, tu sais. T'as pas besoin d'avoir ça dans un règlement pour que les gens sachent un peu comment vivre, là.
Ben, c'est la même affaire avec les laisses, là, je veux dire. Je comprends pas qu'encore aujourd'hui, il y ait des propriétaires de chiens qui mettent pas leurs chiens en laisse. Puis il y en a des problèmes à Québec en passant. Faites juste demander à la police ou SPVQ, là, des appels de voisins qui ont des chiens qui ne sont pas en laisse autour d'eux ou dans leur voisinage, il y en a plein. Comment ça se fait que les gens sont pas capables de respecter un minimum de consignes? C'est pas en passant énorme ce qu'on vous demande, là. On vous demande de tenir vos chiens en laisse puis de ramasser le caca quand vous allez prendre une marche. Mais il semble que c'est pas un effort qui est tellement soutenu, là. C'est pas un effort qui est si gros que ça qu'on demande au monde. Et là, il y a tellement de gens qui ne respectent pas ces consignes-là de base qu'on est obligé de payer des fonctionnaires municipaux pour mettre sur pied une brigade qui va faire de la sensibilisation auprès des propriétaires pour qu'ils respectent ces règles de base-là.
Et il y a question des chats aussi. On dit les propriétaires de chats, quant à eux, doivent éviter de laisser circuler leur animal librement à l'extérieur des limites de leur terrain.
Ah, puis ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de ça.
T'as pas le droit de mettre ton chat dehors pour qu'il se promène dans le quartier, maintenant?
Non.
Ah, je savais pas ça.
En principe, non.
Ah oui, je savais pas. Ah ben ça, il y a une couple de personnes qui respectent pas cette consigne-là.
Une couple, tu dis?
Mais je savais même pas que c'est un règlement, ça.
Dans Limoilou, je te dirais que... C'est reconnu.
Il y a beaucoup de, c'est ça.
C'est reconnu.
Ah
il y
a oui?
Beaucoup.
Ben,
j'ai
resté plein,
dans
genre.
Limoilou pendant quelques années, puis je peux te dire que.
Puis même dans des quartiers, là, plus. Même dans des quartiers résidentiels, ben, à
chez nous, ça arrive régulièrement. Il y en a une couple, là, qu'on voit passer sur le terrain, c'est toujours les mêmes, là.
Mais tu sais, les chats vont jamais être très, très loin, là. Mettons que si t'habites à Sainte-Foy, ça me surprendrait que ton chat, il se promène à Beauport. Mais reste que, il va souvent un petit peu plus loin que le terrain. Là, il va aller peut-être 2-3 maisons plus loin à côté, puis il va revenir après. Mais là, essaye de contrôler un chat à cette heure, là.
Ouais, c'est parce qu'un chat et un chien, pas la même chose. Un chien, c'est plus épeurant, puis ça va aller vers le monde, tandis qu'un chat, il va faire sa petite affaire, puis il veut pas te voir, là. Surtout
tu parles
les
de règlement,
vieux,
je savais pas ça. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont eu des plaintes que les chats des voisins venaient sur leur terrain, puis ça les dérangeait. Fait que là, ils ont dit, ben, techniquement, le chat du voisin, il est pas supposé venir sur ton terrain à toi.
Ouais, puis s'il marque son territoire sur ton terrain, c'est
oui,
pas le fun.
Là, ça peut être plus plate. Ça, je suis d'accord. Fait que c'est peut-être pour ça que le règlement existe, là. Cela, je le comprends. En passant, c'est vrai que vous êtes pas responsable des animaux de vos voisins non plus, là.
Non,
s'ils viennent
ça.
Sur votre terrain, je comprends, mais. Parce que les chats, ils écoutent pas, Jonathan. C'est comme un petit gars de 2-3 ans. T'essayes d'y parler, mais des fois, ils écoutent pas.
Ils s'en foutent.
Si tu les as pas mis en laisse dès leur plus jeune âge, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça avoir un collier, ils aiment pas ça avoir un harnais.
Ah non, ils aimeraient pas ça. Écoute, il y a quelqu'un qui nous écrit au 25226. J'ai un voisin qui a un pitbull et il est jamais en laisse. Il sort de son véhicule et le chien se promène partout. Il est dressé pour l'attaque en plus.
Okay.
Il se fout de tout. On a appelé. Et puis là, vous allez me dire, appeler la police. Mais cette personne-là a été judiciarisée elle-même il y a quelque temps. Puis moi, j'ai deux chiens à la maison et ils sont en laisse tout le temps. Fait que je comprends qu'il y a eu des appels à la police qui ont été faits, puis disons que le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes de ces voisins-là. Mais moi, si j'avais un voisin qui a un pitbull, qui est dressé pour l'attaque puis qui n'est pas en laisse, là, peux-tu dire que la police, là, il serait tanné de m'entendre parce que je les appellerais tous les jours?
C'est dangereux.
Ben,
ça,
mais hein?
Je sais que dans le règlement provincial sur les chiens, là-dessus, il y avait des spécifications. Je m'en souviens pas par cœur c'est quoi. Mais regarde, parmi les choses, et ça, je te dirais que c'est peut-être ce pourquoi je pourrais comprendre qu'il y ait une brigade canine, c'est de faire parce qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place, notamment faire porter un licou ou un harnais aux chiens de 20 kilos et plus dans les endroits publics.
Et on dit aussi, quelqu'un dit, je viens de me chicaner avec un propriétaire de chien qui est venu se promener avec son chien pas attaché en face de chez moi. Pourquoi vous avez de la misère à avoir de la quiétude dans votre propre maison ou sur votre propre terrain? C'est ça que je comprends pas. Quand t'es obligé de te chicaner ou d'appeler la police pour être bien chez vous, sur ton terrain, alors que tu as parfaitement droit à cette quiétude-là.
C'est pour
je comprends
ça que
pas.
Je dis, c'est juste du savoir-vivre. Mais
oui,
base,
exact.
À un moment donné, puis je comprends pas que les gens respectent pas ça. Puis c'est pas appris à l'école, là, mais je me demande si ça le devrait pas l'être. À un moment donné, garde. J'abandonne. Je comprends pas.
Hey, les chats, c'est vraiment un problème en passant. Il y a des gens qui disent qu'il y a souvent des batailles de chats la nuit. On entend ça crie, ça fait
du
bruit.
C'est nocturne, un chat.
Oui, ça urine un peu partout, dans nos plates-bandes, dans les carrés de sable. Oui,
les
c'est vrai.
Les enfants vont jouer après. Puis...
Ça sent. Puis ouais, ils sont mêlés, les pauvres minous. Ils pensent que c'est de la litière. C'est pour ça. Là. 25-226, si vous voulez ajouter quelque chose, on s'en va à la pause.
La grande messe du rock avec Yvon Denis. Toujours plus de rock. Vista Radio, OFM 93, c'est la grande messe du rock.
Tous les jeudis de l'été, vers 15h30, dans Bouchard en parle, tout le monde dehors, pour la chronique plein air en compagnie de l'aventurier Alexis Nantel, présenté par Sport Expert et Atmosphère. Il vient nous donner plein d'idées d'escapades en plein air, des plus accessibles aux plus audacieuses. Et je suis sûre qu'on aura droit à quelques récits de ses aventures. À tous les jeudis de l'été, à 15h30, dans Bouchard en parle, on met le nez dehors. La chronique plein air, présentée par Sport Expert et Atmosphère, OFM 93.
La Maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat, présentée par Mercedes-Benz de Québec, est de retour. Soyez parmi les 15 gagnants finalistes qui se partageront plus de 700 000 $ en prix, dont cette somptueuse demeure ou 500 000 $ en argent. Le grand gagnant sera dévoilé dans Salut Bonjour Week-end à TVA. Nouveauté cette année, pour 10 $ obtenez une chance et pour 20 $ 3 chances de gagner. Achetez vos billets sur maisontanguay.com. La Maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat, une collaboration de Salut Bonjour Week-end, Le Journal de Québec et TVA.
Maboutiqueradio.ca. Toujours des rabais de 50%.
50% chez Espace Habitation GBI et chez Extermination Plus.
50% chez Sport Opus Sainte-Foy, Spa Infinima et chez Toiture Pro Durable pour l'inspection ou la réfection de votre toit.
50% chez Pro Stationnement qui donne une deuxième vie à vos aménagements.
50% chez Pavage Express et chez Paysage Design.
Et 50% pour un plan d'entretien pour deux murales chez Réfrigération Everest. Commandez et on livre chez vous. Détail sur maboutiqueradio.ca.
Taxi!
Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi.
Le Dièse 8294 sur votre cellulaire.
Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411.
Nissan, je t'en ai d'être chez nous, j'ai tout essayé, la musique, l'art.
Puis la conduite manuelle, l'excitation d'accélérer sur la grande route.
Non.
J'ai le Qashqai S à boîte manuelle et à traction avant, avec Apple CarPlay, beaucoup d'espace de chargement, le Bluetooth.
Combien?
299 $ par mois, location de 39 mois, zéro comptant initial.
Offre alléchante. Tiens, une toile que j'ai faite pendant le confinement.
Un combat de furet?
C'est un couple qui valse.
Ah, OK. Bel effort.
Jusqu'au 31 juillet, valeur au détail de 23 663 $, allocation totale de 65 000 km, sur approvisionnement de crédit, détails et conditions chez Nissan.
Alimentation, l'impact.
Votre épicerie de quartier au cœur de Limoilou. Un choix impressionnant de viande, de fruits et légumes, toujours frais. C'est aussi le plus grand magasin de microbrasserie au Québec, avec 600 variétés de bières et toujours des promotions. Alimentation L'Impact, 1604e avenue.
Hey les peureux, cet été, faites comme moi. Lorsque vous aurez vraiment le goût de savourer du bon poulet Kentucky, rendez-vous dans l'un ou l'autre des trois restaurants PFK de Sainte-Marie-de-Beauce, Montmagny, Donnacona ou encore commandez en ligne pfkquebec.ca.
Les orthésistes du pied de Québec veulent prendre quelques secondes pour remercier les gens de Québec. Ils ont travaillé très fort, ont continué d'offrir leurs services légendaires et grâce à vous, ils en sont grandis. Pour vous remercier, ils vous offrent 30 % de rabais sur tous les produits Mephisto, sur les bottes de travail, les bottes bambou et sur leurs fameuses sandales. Leurs services sont toujours couverts par la plupart des assurances. Pour vos problèmes de pieds, de genoux et de hanches, les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Actualité, commentaires, analyse, opinion. C'est Bouchard en parle.
FM 93.
93. 15h35, ça fait un petit bout de temps qu'on lui a parlé. On va la rejoindre dans l'instant en direct de l'Ouest canadien. Vous savez que notre collègue stagiaire est parti en voyage avec ses amis dans l'Ouest. Voyager au temps de la COVID-19, c'est sûr que c'est bien différent. Par contre, on nous encourage à visiter le Canada puis à voyager à l'intérieur du Canada. Mais si c'est possible de rester au Québec puis d'encourager ici au Québec, c'est sûr que c'est bien aussi. Mais on va la rejoindre dans l'instant pour parler des services et des applications de livraison. Aujourd'hui, ça a l'air qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent. J'imagine qu'elle part des Uber Eats et Skip the Dishes de ce monde. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Anne-Sophie, salut!
Allô, Isabelle, ça va?
Oui, ça va bien, toi aussi. T'es rendue où, là?
Là, je suis rendue à Jasper. Je suis arrivée là hier. Puis, on se promène un peu encore. Je vais bientôt revenir vers le Québec pour pouvoir faire des chroniques du Québec avec vous.
Bon, tu vas revenir nous voir. Excellent. Ouais. Anne-Sophie, on sait, les restaurants ont ouvert leurs portes depuis, ça fait presque un mois maintenant là, qu'on peut aller au restaurant en salle. Mais pendant la pandémie, on a continué à encourager nos restaurants le plus possible. Et il y a plusieurs restaurants qui ont commencé à offrir un service de livraison. Alors, tu nous as préparé quelque chose au sujet des conditions de travail des livreurs des grosses compagnies de livraison.
Oui, vraiment des livreurs qui ont été sollicités là, du mois de mars à la mi-juin parce que les restaurants étaient fermés. Puis on sait, le confinement, c'était pas nécessairement synonyme de cuisine pour tout le monde. Donc, on pourrait penser que ce sont les restaurants qui se sont fait beaucoup d'argent
oui.
avec le take-out en temps de pandémie. Mais vraiment, pas du tout, pas tous les restaurants. Certains, oui, mais certains ont perdu, en fait. Ceux qui ont été avantagés par ça, c'est les grosses compagnies de livraison, comme tu disais, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes, il y en a plusieurs au Québec. Ces compagnies-là, là, ils sont des applications qu'on télécharge sur nos cellulaires
oui.
pour ensuite commander en ligne avec la plateforme. C'est vraiment pratique. Puis ça, c'est vraiment, ça a vraiment été populaire durant la pandémie d'utiliser ces applications-là, mais ce n'était pas nécessairement à l'avantage des restaurants. Bien évidemment, vous ne serez pas surpris non plus d'entendre que ces compagnies-là ont été plus populaires que jamais, c'est ça. Puis les restaurateurs devaient se retourner vers eux dans plusieurs cas pour continuer à opérer. Et directement, les livreurs ont été énormément et ont également fait plus d'argent que jamais parce qu'il faut se rappeler que la livraison s'était rendue un service essentiel. Mais ce qui m'a le plus surprise là-dedans, en faisant mes recherches sur le sujet, c'est que le travail de livreur, c'est vraiment un travail avec des meilleurs salaires qu'on le pense.
Ah
oui? J'ai parlé à deux livreurs. Le premier, en fait, j'ai pas réussi à lui parler, mais j'ai lu sur lui. Il fait sa livraison à vélo à Montréal. Faut savoir que quand tu es livreur, tu as les deux options, soit voiture ou bicyclette. Lui s'appelle Essine Trudeau, gradué de Polytechnique Montréal en génie civil. Puis, il a décidé de poursuivre son emploi de livreur. Après avoir gradué, là, il aurait pu être ingénieur.
Ben oui.
Lui a pris la décision de continuer en livraison parce qu'il faisait beaucoup d'argent puis il adorait la liberté entourant son travail. Et j'ai interviewé Mathis Boursier-Lorrain, qui lui aussi est en bicycle. Puis lui, il me dit que c'était un peu une erreur de parcours là, de s'être retrouvé là-dedans. Mais finalement, il se rendait compte à quel point son travail, ça lui permettait de faire une bonne somme d'argent. Puis c'est ça. Fait qu'il m'expliquait à quoi ça ressemblait, ses conditions de travail, lorsque lui travaillait pour Foodora, qui a malheureusement fermé en mai. Puis maintenant, il travaille pour Skip. On l'écoute à ce sujet.
Si tu travailles, puis c'est à un moment que c'est occupé, ben t'es capable d'aller chercher là, j'ai déjà fait des 50$ de l'heure, là, tu sais. J'ai déjà fait plus que 400$ en une journée. Avec Foodora, je faisais en moyenne 28$ de l'heure. Fait que ça dépend vraiment, mais ça, c'est payant, là. C'est payant, mais tes conditions de travail, c'est tes travailleurs autonomes, toutes tes dépenses, c'est toi qui gères ça. Donc c'est pas fait pour tout le monde, là. T'es vraiment libre, tu peux. T'as pas de comment dire, tu peux pouvais manquer un shift, tu peux arriver en retard, t'as pas de boss, tu peux travailler quand tu veux, c'est payant. Fait que c'est dur de dire comme les conditions sont pas bonnes. C'est ça, si tu te blesses, là, t'es dans la marge, tu sais, t'es laissé à toi-même. Fait que c'est à toi de gérer les risques de ça pis tout, là. Moi, ouais, je me suis tombé sur mon coude, là, pis tu sais, je veux dire, j'ai encore des. C'est pas une blessure extrêmement grave, mais tu sais, ça a passé du bien, là. Tu tombes pis. C'est une job à haut risque, là. Tu sais, faut faire attention, là. Mais. Non, excuse-moi, je me pète la gueule,
Ben surtout que lui, il est en vélo, en fait. Fait qu'il a pas vraiment, il peut pas vraiment se permettre de se péter la gueule. Par contre, c'est donc bien payant. J'aurais jamais pensé ça. Mais là, je comprends que c'est payant. Par contre, il l'a bien dit, il y a un prix à payer. Tu sais, t'es travailleur autonome, t'as ta propre voiture. Quoi qu'en BC, j'imagine que les coûts fixes sont un petit peu moins élevés. Mais leurs conditions de travail, ça peut ressembler à quoi?
Oui, ben c'est ça. Là, on dit l'argent, c'est cool, un bon salaire. Mais j'ai minimum 20 de l'heure, là, c'est un bon livreur. Il m'a même dit que c'est déjà fait 50 en temps de pandémie, quand c'était super occupé. Mais c'est ça, que les conditions, c'est pas idéal. Ils n'ont aucun contact humain. C'est une application. Ils ouvrent leur cellulaire. Là, maintenant, il faut qu'ils prouvent sur leur cellulaire qu'ils ont un masque. Au moins, il y a ça. Mais il n'y a aucun boss qui est avec eux. Ils n'ont pas de relation humaine du tout. Il y a vraiment un effritement des conditions de travail. De ce que j'ai compris, pas de garantie d'heure, ni de sécurité d'emploi. Ils sont exclus des protections des lois du travail. Puis, c'est ça, les entreprises les considèrent comme des travailleurs autonomes et non comme des salariés. Mais, on le dit en vélo, le but pour faire de l'argent pour les livreurs, c'est de faire le plus de commandes possible en moins de temps possible. Donc, il y a un prix à payer. Ça veut dire enfreindre le code de la route pour des livreurs à voiture ou bien mettre sa vie en danger pour les gens à vélo. Comme lui disait, il est tombé sur son coude parce que sûrement, il essayait d'aller super vite parce que plus que tu fais de commandes, plus que tu fais d'argent. C'est ça. Fait que ça peut vraiment devenir dangereux. Puis lorsque quelqu'un se blesse, ben, ils n'auront pas nécessairement d'assurance avec la compagnie. Puis s'ils veulent, ils peuvent s'en prendre une avec la CNESST, mais c'est super cher quand tu prends une assurance personnelle. Fait que c'est ça. Il y a quand même des gros enjeux autour de ça. Et il y a d'ailleurs eu des manifestations de certaines compagnies, de ces grosses multinationales-là, cette année, justement, en avril, en Australie. Les Australiens livreurs ont fait une manifestation pour Uber Eats. Ils ont perdu leur cause. Et finalement, je disais plutôt que Foodora avait fermé ses portes. En fait, c'est une manifestation qui a lieu à Toronto en février. Puis les livreurs allaient donc être syndiqués parce qu'ils ont réussi, ils ont gagné leur cause.
Ah oui, OK.
Et comme par hasard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Foodora a décidé de fermer au Canada, disant qu'il ne faisait pas assez de profit.
Ben là, il ne voulait pas du syndicat, c'est clair.
C'est ça, exactement. Fait que moi, j'ai discuté pour aller un peu plus loin avec Maître Marc Bellemare, qui lui est avocat spécialisé en droit des travailleurs à Québec. Puis, il m'expliquait qu'en effet, là, ces multinationales-là, ils décident de considérer leurs employés comme travailleurs autonomes, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas vraiment travailleurs autonomes, pour faire plus de profit. Je vous laisse écouter M. Bellemare au sujet de tout ça.
Ben, c'est pour éviter de payer des frais, parce que si ce sont des travailleurs autonomes, il y a beaucoup moins de coûts pour la compagnie. Comme si ils ne payent pas de CNSST, il n'y a pas de risque que les travailleurs se syndiquent, parce que pour être syndiqué, il faut être salarié. Alors, c'est pour ça que les compagnies travaillent très fort pour faire en sorte que leur livreurs soient des travailleurs autonomes, parce que s'ils sont des travailleurs autonomes, c'est à eux qu'incombent toutes les charges.
Ben non, écoute, je comprends. En tout cas, pour Foodora, il n'était pas très, très subtil. Là. Je pense qu'on a tous compris pourquoi ils ont voulu faire faillite. Mais je comprends qu'ils veulent garder le plus d'argent possible dans leur poche. Puis Dieu sait qu'ils en font de l'argent. Mais là, on sait que les livreurs font un assez bon salaire avec ça. Ils ont des pas pires conditions. Ce sont de bons profits aussi pour les multinationales qui sont les compagnies de livraison. Mais pour les restaurateurs, eux autres, c'est pas pareil. Là.
C'est ça que je disais plus tôt. Là, les petits restaurateurs... plus locaux et indépendants, c'est vraiment pas une option avantageuse du tout. Je vous donne une petite idée des chiffres que j'ai trouvés lors de mes recherches. 30 % des profits, par exemple, tu te commandes une poutine, okay? 30 % des profits vont à l'achat de la nourriture, un autre 30 % pour payer la main-d'œuvre. Et s'ils font affaire avec une compagnie comme Uber Eats, par exemple, c'est un autre 30 % qui revient à Uber Eats.
Hey!
En plus, on fait le calcul, il reste juste 10 % c'est rien du
c'est
tout.
Quasiment
là,
c'est quasiment un tiers qui va aller à Uber Eats. Mon
exactement.
Dieu, c'est énorme. OK.
Fait qu'il leur revient rien du tout. Puis, ils doivent payer, c'est ça, des commissions tellement élevées qu'ils font qu'un profit avec la livraison. Fait que c'est plus logique pour eux de tout simplement livrer par eux-mêmes ou de demander d'aller au comptoir chercher la nourriture. Fait que souvent, ces petits restaurants-là, en pandémie, par exemple, ils n'ont pas eu le choix de s'afficher comme sur Uber Eats parce que c'est une meilleure façon d'avoir une visibilité pour continuer d'avoir un peu d'opération au restaurant. Mais ils ont perdu de l'argent comme ça se peut pas. Puis, c'est ça. Mais les gens aiment ça, par exemple, ces applications-là. Moi, par exemple, quand j'ai envie de me commander quelque chose, je ne sais pas si c'est plus les jeunes, mais on pense plus à aller sur Foodora ou Uber Eats parce que tu tapes, par exemple, sushi, puis là, tu as 8 choix de sushi. C'est super pratique.
Oui, mais je pense qu'on devrait quand même porter attention parce que souvent, les restaurants ont leur propre service de livraison, mais nous, on n'a pas le réflexe d'aller vérifier auprès du restaurant. On va tout de suite sur nos applications parce que c'est, tout est regroupé au même endroit, puis c'est peut-être plus facile d'utilisation. Mais un truc que je pourrais donner, c'est avant de commander par Uber Eats ou Skip de Dishes ou Foodora, juste vérifier avec le restaurant s'ils n'ont pas leur propre service de livraison. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ils vont peut-être avoir un profit plus grand. Là. En fait, ils vont certainement avoir un profit plus grand.
Oui, puis même, je parlais avec mon amie tantôt, elle commande beaucoup, puis des fois, Uber Eats lui envoie, en fait, la compagnie lui envoie un message après qu'elle ait commandé avec Uber Eats disant « Hey, prochaine fois, commande directement avec notre service » parce que pour eux, c'est beaucoup plus avantageux. Okay, mais c'est, bon. C'est ça, pour les petites compagnies, c'est des avantageux, mais pour les grosses multinationales, encore une fois, comme McDonald's, Subway, pour eux, là, ils ont des bons radis avec Uber Eats, ils ont une bonne entente. Fait que ça a des avantages encore les restaurants plus locaux, malheureusement. Fait que c'est ça, c'est un peu tiré dans le pied pour les petits restos. Fait que c'est un bon conseil, ça, de voir avant, là, si on peut commander directement avec le restaurant. Parce que sinon, c'est à l'avantage des grosses compagnies de livraison.
C'est vrai. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Oui. C'était super intéressant.
Merci. Merci beaucoup. Bye-bye.
Merci. Oui, Jonathan?
Ça me fait penser un peu à la situation avec les hôtels. Les gros hôtels, les grosses chaînes hôtelières ont avantage à être sur les plateformes. Mais les petits gîtes, on l'a vu, là, ils payent un prix de fou en comparaison pour le même service.
Non, c'est vrai, effectivement. T'as raison. Et en passant au 25226, quelqu'un nous dit, bon, faites attention, Uber Eats, t'as jamais fait une seule année de profit. Écoutez, ça se peut très bien qu'à l'intérieur de la compagnie, la façon de gérer les finances a fait en sorte qu'ils n'ont pas fait de profit. Mais le fait est qu'ils prennent quand même 30% d'une commande lorsqu'ils font affaire avec un plus petit restaurateur. Fait qu'en tant que tel, à l'intérieur de la compagnie Uber Eats, ils font du profit ou pas, soit à la limite, c'est pas important. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous commandez avec Uber Eats via un petit restaurateur ou un petit commerçant, c'est jusqu'à 30 % qui vont prendre la commande comme cote, en fait. Là. C'est, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est incroyable comment c'est élevé.
J'ai une note de circulation à vous faire. Henri IV, direction nord, à la hauteur de Charest. La voie de droite est bloquée en raison d'une panne. C'est juste avant d'entrer dans les travaux. Donc, ça refoule beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement sur Henri IV en direction nord. Donc, prenez un chemin alternatif si c'est possible encore à cette heure-ci.
Merci, Jonathan. On s'en va à la pause.
La grande messe du rock avec Yvon Delisle. Sing women, sing for the year, sing for the laugh, sing for the tear. La grande messe du rock.
Hey Jude, don't let me down.
La grande messe du rock. Vista Radio, OFM 93, c'est la grand-messe du rock.
Taxi!
Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est Dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi.
Le Dièse 8294 sur votre cellulaire.
Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411.
Hey les peureux, cet été, faites comme moi. Lorsque vous aurez vraiment le goût de savourer du bon poulet Kentucky, rendez-vous dans l'un ou l'autre des trois restaurants PFK de Sainte-Marie-de-Beauce, Montmagny, Donnacona ou encore commandez en ligne pfkquebec.ca.
Pour du golf de grande qualité, tout près de chez vous, en toute sécurité, Club de golf L'Albatros, 1418 route de l'aéroport. 88-871-1818.
Pour un été exceptionnel dans votre piscine, passez chez Club Spa.
Chlore, AlgiC, lumière, robot, échelle. Vous trouverez de tout pour la piscine. Profitez des analyses d'eau gratuites par leurs spécialistes. Club Spa, une entreprise familiale d'ici depuis 1981. Club Spa.
Pour un temps limité, Liquida Sport vous offre la deuxième paire de chaussures à 50%. Chaussez-vous dans les grandes marques comme Merrell, Keen, Asics, Skechers. 50% de rabais sur la deuxième paire de chaussures.
Pour quelques jours seulement.
Liquida Sport, 1285 Jules Verne.
Les sorties
artistes du pied de Québec veulent prendre quelques secondes pour remercier les gens de Québec. Ils ont travaillé très fort, ont continué d'offrir leurs services légendaires et grâce à vous, ils en sont grandis. Pour vous remercier, ils vous offrent 30 % de rabais sur tous les produits Mephisto, sur les bottes de travail, les bottes bambou et sur leurs fameuses sandales. Leurs services sont toujours couverts par la plupart des assurances. Pour vos problèmes de pieds, de genoux et de hanches, les orthésistes du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Le Québec se lève. Samedi et dimanche, 7 heures.
Que ceux qui pensent qu'on n'apprend jamais rien, que le Québec se lève, viennent me voir me dire qu'on n'apprend jamais rien, là.
Mais hier, on a appris en masse des affaires aussi.
Ben oui.
Hier, ça a été productif.
On a appris que la moufette, j'ai dû rien retenir. J'ai absolument rien retenu. Oh.
Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson.
FM 93.
Bonne nouvelle! Tous les Doulis sont maintenant ouverts avec tous les services. Et encore plus alléchant, on a une promotion Body Burger à 15 $. Que demander de plus? On est grand avec beaucoup d'espace pour vous recevoir chez Doulis.
Vous avez un immeuble à revenus à vendre? Peu importe s'il a besoin de réno ou non, il l'achète rapidement chez Airfortin.com. Un terrain, une maison, un immeuble qui a besoin de réno ou non, à vendre dans la région de Québec, Airfortin.com est votre acheteur. Airfortin.com.
Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement
avec
du Québec.
Avec Taxi Coop 591, c'est simple. Peu importe l'endroit où vous habitez, partout dans la grande région de Québec, ils vous conduisent en toute sécurité. Besoin de sortir? Taxi Coop 591, 24 heures sur 24. Téléchargez maintenant l'application Taxi Coop.
Pour être à la fine pointe de l'information.
L'actualité, les dossiers chauds, à la minute près. C'est Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête.
On va aller retrouver notre collègue Pascal CV qui est sur le terrain à Saint-Apollinaire pour cette alerte Amber qui est toujours en vigueur au moment où on se parle. Mon souhait le plus cher, c'est que d'ici 18 heures, on ait une mise à jour concrète par rapport à ces deux jeunes filles-là, en fait, et leur père qui sont portés disparus. Je vous rappelle que pour l'instant, le père est toujours le suspect numéro un dans l'enlèvement de ces deux petites filles-là. À moins que tout ça ait changé, est-ce qu'on a eu des développements dans les dernières heures? On rejoint Pascal CV avec nous dès maintenant. Salut Pascal.
Madame Crête, Monsieur Bernard.
Pascal, tu es dehors à 42 degrés d'humidex depuis maintenant.
Je dirais 56.
Oui, pas mal 56. Une pensée aussi d'ailleurs pour tous les policiers qui sont sur le terrain avec leur équipement puis leur uniforme. On s'est parlé en début d'émission, Pascal, le temps file. Ça doit être hyper stressant pour les policiers puis pour les proches présentement. Est-ce qu'on a des développements depuis tantôt?
J'aimerais bien vous dire que oui, en ce moment, on est vraiment dans la période stagnante qu'on voit parfois dans ce genre d'événements. Pas d'informations supplémentaires, très peu de témoins dans la dernière heure qui sont venus, de témoins ou de citoyens qui auraient des informations, là. Très peu qui se sont présentés ici. C'est toujours ça, là, c'est la partie décourageante, je crois, pour un service policier, pour un corps policier. Bien que peut-être que je suis pas au courant de certaines informations qui sont entrées, on s'entend, là, on ne sait pas tout en tant que journaliste. Et puis même des fois, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, tu sais, si je vous parle du en arrière de ce genre d'intervention-là. Il y a des mots qu'on n'utilise pas pour faire en sorte de ne pas nuire à l'enquête. Ça fait pas en sorte que les informations sont manquantes. Ça fait en sorte que si, par exemple, Martin Carpentier nous écoute, il va comprendre qu'on souhaite simplement qu'il revienne, qu'il ramène les enfants en sécurité et qu'on va l'attendre sans nécessairement voir des gens fâchés ou qui vont tout de suite lui passer les menottes ou autre. Jonathan, tu en as déjà vécu des couvertures de ce type-là, je pense que tu peux comprendre ce que je suis en train d'expliquer.
Oui, oh, effectivement, on veut laisser la porte ouverte pour dire, regarde, reviens-t'en là, puis on discutera. Mais on n'est pas là pour te tomber dessus. Peut-être plus tard, on verra les conséquences que tu auras et les accusations auxquelles tu pourrais faire face. Mais là, pour l'instant, là, viens nous voir, ramène les petites, puis on va discuter.
Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, qu'il pourrait très bien être à l'écoute présentement puis écouter les médias, fait que faut être prudent. Pascal, dis-moi donc, pour les gens qui comprennent peut-être pas ce à quoi ça ressemble présentement sur le terrain à Saint-Apollinaire, le déploiement en tant que tel, de quelle façon les policiers travaillent? Est-ce qu'on reçoit des citoyens sur place? Est-ce qu'on est au téléphone? Comment ça travaille présentement là, sur le terrain?
Souvent, un poste de commandement, comment c'est c'est monté, en fait, c'est mis en place, c'est que t'as un genre de véhicule qui ressemble à une petite roulotte, OK? Là où on va accueillir des citoyens pour récolter de l'information. On les fait entrer un par un, si jamais il y a une file ou autre, une file à 2 mètres. Mais c'est là où on les fait entrer. Puis on peut avoir comme ça une conversation privilégiée et surtout confidentielle avec ces gens-là. Il y a toujours aussi d'autres véhicules sur place, que ce soit pour avoir de l'électricité, pour avoir des communications, pour avoir des gens, des enquêtes qui sont déplacées. Comme là, en ce moment, la majorité des enquêteurs sont du côté de Laurier Station. C'est là où toute l'opération est mise en place et elle est contrôlée, dirigée. Il y a aussi certains policiers qui vont diriger les bénévoles. Très peu d'informations pour nous, les médias, sur ce que font les bénévoles. Si jamais ils ont des 4 roues, ils sont aussi invités à aider. J'ai croisé un homme qui était descendu de Granby en moto aider. Ouais. Okay. Mais on vous conseille pas de faire ça parce que cet homme-là a dû retourner chez lui. T'sais, c'est vraiment des gens qui sont sélectionnés en conséquence. Il y a aussi des citoyens, des fois, qui peuvent être inquiets parce qu'ils se disent... Bon, moi, c'est un exemple concret que je vous donne. Il y a un homme tantôt qui est arrivé. Lui, ça faisait 2 jours et demi qu'il n'était pas allé chez lui. Bon, qu'est-ce qu'il faisait? Je n'ai pas posé de questions, ça reste de ses affaires personnelles, mais il n'était pas à la maison, puis il est venu inquiet. Il s'est dit, peux-tu rentrer chez nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut m'assister pour venir regarder à la maison? Normalement, on ne le fait pas. C'est un homme qui était assez âgé, qui a vraiment fait une demande par crainte. Donc, un policier est parti avec lui. Il l'a accompagné jusqu'à son domicile pour faire une petite routine. Vérification. Bon, on n'est pas allé dans le garde-robe, là, mais si vous comprenez, s'il y avait des choses qui avaient été déplacées...
Parce que c'est vrai. Ben, c'est logique. Je veux dire, dans le sens que quelqu'un qui aurait enlevé ses enfants pourrait essayer de spotter une maison vide et puis essayer de s'y réfugier. Puis là, la personne revient après puis tu fais le saut. Là.
Et c'est ça pourquoi les policiers demandent à tous les gens dans le secteur de Saint-Apollinaire et plus particulièrement dans le secteur visé là, de vérifier toutes les dépendances, que ce soit chalet, roulotte, cabane à sucre ou autre bâtiment qu'il peut y avoir dans le secteur.
Pascal, merci beaucoup. Si jamais il y a des développements plus importants d'ici 18 heures, on va te reparler certainement.
Parfait. Faites-moi plaisir. Diffusez, si vous pouvez, encore une fois, la vidéo, le message de la conjointe de Martin Carpentier, parce que si on croit qu'une personne peut le faire revenir, c'est bien sa conjointe.
Absolument, c'est certain. Merci beaucoup, Pascal.
Ça me fait plaisir.
Merci. On va aller rejoindre dans quelques instants Paul Laurier, ex-policier de la Sûreté du Québec, à qui on a parlé hier. Mais juste avant, Jonathan, c'était une question de temps avant que ça arrive, mais le premier ministre a finalement parlé concernant cette alerte Amber.
Oui, voilà. François Legault, qui était du côté de Yamachiche en Mauricie aujourd'hui pour son point de presse quotidien. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il demande aux Québécois de rester alerte, de garder l'œil ouvert pour le citer, afin de retrouver les 2 petites filles qui sont portées disparues depuis mercredi soir.
Alors, c'est une question de secondes, honnêtement, ou de minutes, mais il fallait qu'il commente. Je pense que ça fait partie du rôle du premier ministre également. Puis, évidemment, ben, toute la société, tous les individus, tous les citoyens sont mobilisés présentement partout au Québec et spécialement dans le secteur de Saint-Apollinaire pour participer aux recherches. On va rejoindre à l'instant Paul Laurier, ex-policier de la Sûreté du Québec à qui on a parlé hier. Monsieur Laurier, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Laurier, on s'est parlé il y a près de 24 heures maintenant. Donc, 24 heures s'est écoulée. On n'a toujours pas de nouvelles des 2 jeunes filles et du père. Lorsqu'on est policier impliqué dans une enquête comme ça, puis qu'on voit le temps qui file, j'imagine que ça devient de plus en plus inquiétant, là.
Ben, c'est inquiétant, mais c'est toujours le but visé est toujours de trouver l'indice, de trouver, comme je disais hier, on retourne toutes les roches, on regarde tous les indices, on a déployé beaucoup, beaucoup de moyens, l'hélicoptère, maître chien, on a des bénévoles, recherche systématique sur le terrain, on quadrille, on a quadrillé le terrain, on s'assure que chaque endroit visité va être fouillé correctement, mais c'est sûr que c'est inquiétant. Parce que comme policier, on est aussi souvent père, parent de femme, parent d'enfant. Donc, ça nous touche doublement.
Bien, c'est ça que j'allais dire, Monsieur Laurier. Je trouve ça bien que vous apportiez ce point-là parce que on dit souvent que les policiers développent une carapace au fil du temps. Il ne faut pas être trop impliqué émotionnellement dans nos enquêtes. Puis on peut comprendre pourquoi, là, parce que sinon, on vient fou avant la retraite. Mais quand même, quand il est question d'enfants comme ça, j'imagine que ça doit venir nous chercher au plus profond de notre cœur quand même, là.
Ben, ça vient chercher. Tous les crimes sont atroces, particulièrement avec des enfants. On le sait, c'est des victimes sans défense. On va voir souvent. Moi, j'ai pas travaillé directement au crime contre la personne, mais j'ai travaillé au cyber quand on voyait des abus sexuels contre d'enfants. On se fait une carapace, mais c'est sûr qu'à la longue, ça devient lourd. Et on se dit toujours la priorité. On va trouver la personne. On va retrouver les enfants, puis on va retrouver la personne qui a fait ça, puis on va traduire cette personne-là devant la justice. C'est le but de l'opération. Mais là, c'est vraiment la fonction première, c'est de retrouver les enfants. Tous les indices comptent, tous les faits sont notés, amenés dans un journal de bord. Tous les enquêtes de faits vont être menées. Il n'y a pas de problème de temps, de surtemps ou de ressources humaines. On met toutes les ressources disponibles. Il faut trouver chaque indice, l'exploiter, voir qu'est-ce qui sort de ça. Parfois, ça va nous amener à une autre indice qui va nous amener à la découverte des enfants.
Et dites-moi, M. Laurier, on l'a abordé un petit peu avec Pascal il y a quelques minutes, mais c'est un point auquel je n'avais pas pensé, mais c'est quand même possible que présentement, Martin Carpentier écoute la radio, écoute la télé ou se tienne au courant de ce qui se passe présentement avec l'alerte Amber, puis il est peut-être en train de se demander quoi faire. Par rapport au message qu'on divulgue à la population et dans les médias lorsqu'on est policier puis qu'on sait qu'il y a une possibilité que le ravisseur ou la personne qui est concernée nous écoute, à quoi il faut faire attention exactement?
Ben, en fond, c'est qu'il faut envoyer un message, je vous dirais, positif dans le sens où il faut que cette personne-là, si elle a agi sur le coup d'émotion, si elle a, elle a des problèmes de santé mentale, ben il y a des gens qui peuvent l'avenir en aide. L'idée, c'est de ramener tout le monde en vie, c'est ça l'idée. Les policiers sont là, ont des moyens, ont beaucoup de moyens pour retrouver dans le cas de disparition, mais les policiers sont pas là pour juger, sont là pour ramener les enfants en vie, ramener le père en vie. La vie du père est aussi importante que la vie des enfants, pour que tout le monde soit en vie puis qu'il y ait une fin heureuse. C'est qu'il faut que cette personne-là, ben, se raisonne. Le cri du cœur de la mère, l'appel du premier ministre, l'appel des médias, c'est important.